Sons d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous, c'était donc mercredi dernier, le Brexit devenu réalité avec la lettre envoyée à l'Union européenne déclenchant le fameux article 50 du traité de Lisbonne à Donald Tusk. Les négociations peuvent donc commencer, il faudra détricoter 44 ans de mariage. Mais malgré les mises au point très fermes de Bruxelles, au Royaume-Uni, on se veut optimiste, Marie Billon.
La première ministre semblait avoir adopté un ton plus conciliant en début de semaine, plus de pas d'accord et mieux qu'un mauvais accord. Mais le ton est rapidement redevenu martial quand Theresa May a fait ses premières propositions qui ressemblent fort à du chantage envers Bruxelles. Londres partagera ses informations en matière de sécurité en échange d'un accord commercial total. Au 10 Downing Street, on ne parle pas de chantage, on préfère évoquer une tactique de négociation, demander beaucoup au début pour laisser une marge de manœuvre. « Je ne vais pas m'excuser d'être ambitieux », explique le ministre en charge du Brexit, David Davis, quand un journaliste de la BBC lui demande s'il espère toujours que le Royaume-Uni puisse avoir le même accès au marché unique alors qu'il sort de l'UE. Le pessimisme semble donc être devenu un péché capital ici, ou bien serait-ce le réalisme qui est désormais antipatriotique. La presse tabloïde parle des « Remainers », un jeu de mots avec « Remainer », qui signifie ceux qui ont voté pour rester au sein de l'UE, mais qui moanent, qui râlent, qui traînent des pieds sur le chemin de la sortie. Sauf que ces journaux populaires ne relaient que très peu la position ferme des Européens. Pas question pour les 27 chefs d'État et de gouvernement de laisser le Royaume-Uni sortir avec le beurre et l'argent du beurre. Voilà pourquoi, lors de son discours à la Chambre des communes, Theresa May a répété que pendant les 2 ans qui lui sont imparties, elle compte négocier le divorce et les termes des nouvelles relations entre le Royaume-Uni et l'UE. Mais la France et l'Allemagne lui ont vite imposé une fin de non-recevoir. Un discours auquel on ne croit toujours pas ici. Ce n'est pas dans l'intérêt des Européens, dit-on. Ce n'est peut-être pas dans leur intérêt économique, mais c'est dans leur intérêt politique de ne pas faire de cadeau au premier pays à vouloir quitter le club.
Take the picture that you wanna see. Le 14 mars dernier, la France signait un protocole d'accord pour faire venir 500 réfugiés syriens par des couloirs humanitaires. Une initiative emmenée par les organisations protestantes et catholiques, notamment la communauté Sant'Egidio, la communauté qui est la première à avoir fait ouvrir ses corridors en février 2016. Un modèle qui s'exporte désormais en Europe. Reportage Olivier Bonnel.
Depuis 13 mois, ce sont près de 700 personnes qui ont été accueillies sur le sol italien, en toute légalité et en toute sécurité aussi. Car ces couloirs humanitaires sont nés d'un drame, celui du 3 octobre 2013, où 300 migrants se sont noyés au large de Lampedusa. Paolo Morozzo de la Rocca est professeur de droit à Rome, spécialiste des migrations. Il est l'un des cadres de la communauté Sant'Egidio.
Nous avons commencé pour réagir à ces désastres humanitaires qui sont... tous les morts dans la mer Méditerranée. Nous pensons que nous devons réagir à cette hécatombe humanitaire et nous pouvons le faire assurant le droit de voyager en toute sécurité à ceux qui ont une motivation éligible, raisonnable, juste, pour venir en Europe.
L'article 25 du Code des visas de l'Union européenne permet aux pays d'Europe d'accorder des visas humanitaires. Sant'Egidio s'engouffre dans la brèche et propose au ministère de l'Intérieur italien un protocole pour organiser ces couloirs humanitaires. La communauté envoie ses volontaires au Liban pour prendre contact avec les réfugiés. La plupart sont des personnes vulnérables, souvent des familles avec enfants, des personnes handicapées aussi. Une liste qui répond aux critères du droit d'asile du Haut Commissariat pour les réfugiés et qui est ensuite transmise au consulat italien. Dimitri, 30 ans, est originaire d'Alep. Après avoir fini ses études d'architecture, il fuit son pays pour ne pas s'engager dans l'armée et se réfugie au Liban voisin où il passe 2 mois. Il est arrivé à Rome à la mi-janvier.
Ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils voulaient me voir 2 jours plus tard à l'ambassade italienne. J'y suis donc allé, ils ont pris mes empreintes pour le visa et après plusieurs semaines, ils m'ont rappelé pour me dire que mes papiers étaient prêts et que le voyage aurait lieu 3 jours plus tard. Quand on est arrivé à l'aéroport de Rome, c'était un grand événement. Il y avait là des personnalités importantes, des journalistes. On était fatigués parce que le voyage était vraiment long, mais bon, c'était chouette.
À leur arrivée, les réfugiés sont répartis sur tout le territoire en Italie. Un toit leur a déjà été réservé, mais surtout les moyens d'une intégration rapide. Une intégration qui passe avant tout par l'apprentissage de la langue italienne. Comme d'autres réfugiés, Dimitri est aujourd'hui inscrit à l'une des 9 écoles de langue que Sant'Egidio a ouvert à Rome. L'école principale se situe dans le quartier du Trastevere, à 2 pas du quartier général de la communauté. Daniela Moretti y coordonne les activités pédagogiques.
La communauté de Sant'Egidio s'est rendue compte que la langue était une clé pour s'insérer dans notre société et était un besoin vital pour les migrants, au même titre que la nourriture ou les vêtements. Sant'Egidio pense qu'il ne suffit pas d'accueillir, mais il faut intégrer. Et cette école est un exemple d'intégration. Outre les cours de langue, nous offrons des cours de formation professionnelle, comme l'aide à la personne. Et cette année, nous avons organisé des formations de médiateurs interculturels pour créer des ponts entre les institutions italiennes et les migrants et réciproquement.
L'Italie est le départ d'une nouvelle vie pour ces Syriens. Pour Daniela Moretti, les réfugiés aiment l'Italie parfois plus que les Italiens eux-mêmes, un pays qui est devenu pour eux un port d'attache loin des bateaux qui se retournent dans la mer. Pour Sant'Egidio, ces couloirs humanitaires sont un modèle pour toute l'Europe, alors que les États ont souvent failli dans l'accueil des migrants. Paolo Morozzo della Rocca.
Les États nationaux en Europe vivent une crise dans la politique humanitaire. Tout le monde a peur. Mais cette initiative montre que la société civile peut organiser un bon accueil. Et un bon accueil va au-delà de la peur.
En janvier dernier, Sant'Egidio a signé un nouvel accord avec l'État italien et la conférence épiscopale pour faire venir 500 réfugiés d'Érythrée, de Somalie et de Soudan du Sud et travaille depuis de longs mois pour les faire venir du Maroc afin d'en finir avec les mortelles traversées de la Méditerranée.
Pour les familiers de la langue serbe, un extrait de la parodie filmée de Beli à 2 jours de la présidentielle en Serbie. Certes, le premier ministre Aleksandar Vučić est donné dans la plupart des sondages grand favori avec plus de 50% des voix. Mais l'humoriste Ljubiša Preletačević, Beli, compte bien jouer les troubles faits pour arracher un second tour. Et Simon Rico nous dresse le portrait de ce candidat inattendu.
Samoyako frappe fort. Voilà le slogan du candidat qui se présente comme le plus sérieux de l'élection présidentielle serbe. Dans la vraie vie, ce jeune homme de 25 ans s'appelle Luka Maksimović. Cet étudiant en communication s'est fait connaître en 2016 en se faisant élire au conseil municipal de Mladenovac, dans la banlieue de Belgrade, grâce au succès d'une vidéo moquant la corruption du personnel politique. Devant ce premier succès, le trublion a décidé de récidiver en se portant cette fois candidat à la présidence. En une semaine, il a réuni plus de 12 000 parrainages de citoyens sur les 10 000 requis et la commission électorale a dû valider sa candidature. Avec son costume blanc, sa petite barbe et son chignon samouraï, Beli a des airs de Borat serbe. Dans son clip de campagne, il promet 16 salaires par an, des maisons à 3 étages et qu'il n'y aura plus de guerre. Et s'il reconnaît qu'il volera pour lui-même, il jure aussi qu'il donnera quelque chose au peuple. Ce discours satirique lui vaut le soutien d'une bonne partie de la jeunesse serbe, la génération oubliée, celle qui n'a connu que les guerres et la transition chaotique. Sans moyens financiers, Beli fait surtout campagne sur les réseaux sociaux et sa marche. Sur Facebook, la hausse du nombre de ses fans est exponentielle. Sa candidature commence même à inquiéter. Les tabloïds, téléguidés par le pouvoir, l'accusent par exemple d'être financé par le milliardaire américain George Soros, redevenu la bête noire des autocrates balkaniques depuis la victoire de Donald Trump. Mais le jeune homme n'est pas dupe. Il sait que l'enthousiasme qu'il suscite est avant tout le signe d'une démocratie serbe qui va mal. Il montre d'une manière positive à quel point le processus électoral et les institutions sont devenus vides de sens, confirme Saša Janković, le candidat pro-européen qui faisait figure de principal challenger au tout-puissant Premier ministre. Dimanche, Beli pourrait le dépasser avec plus de 10% des voix.
Et oui, de plus en plus de touristes choisissent comme destination Lisbonne et sa douceur de vivre, la capitale portugaise un peu assoupie qui change à un rythme soutenu. Au passage, elle perd de sa spécificité, notamment ses boutiques historiques qui faisaient tout son charme. Un programme municipal devrait normalement les protéger, mais la pression est forte et c'est le reportage de Marilyn Darcy.
Dans la Baixa, au cœur de Lisbonne, les travaux ne semblent jamais s'arrêter. Nouveaux hôtels, nouveaux restaurants, nouvelles boutiques branchées, une frénésie de construction pour les touristes qui transforme radicalement la capitale. C'est pourtant là que se trouvent quelques-unes des plus vieilles boutiques de la ville. C'est le cas d'Au Petit Peintre. Fondée en 1909, l'ancienne laiterie est depuis plus de 60 ans une papeterie, typographie, encadrement. À 75 ans, l'actuel propriétaire, José Dominguez, compte sur sa fille pour reprendre l'affaire.
L'histoire de la loge.
L'histoire de la boutique est importante. Elle doit être protégée. Pour garder son esprit, il faut un contact humain, quelqu'un de la famille, la génération suivante qui aime être dans la boutique pour la valoriser et raconter son passé. Souvent, on a une trace écrite, mais ce n'est pas vécu de l'intérieur.
Deux rues plus loin, dans la boutique Pereira da Conceição, c'est le café moulu à la demande qui attire les clients. Dans un décor style Louis XVI, on trouve aussi bien de la vaisselle que des chocolats. Ainsi le veut la tradition, comme l'explique Guida Pereira da Conceição, troisième génération de la famille à la tête du commerce.
On est une maison de thé et café et on vend aussi tout ce qui est en rapport, les machines, les théières, les chocolats, les bonbons. Mais de ce côté-ci de la boutique, il y a toujours eu de la vaisselle, des services à thé et café et également des éventails. On vend du thé avec les accessoires.
Monsieur Silva, l'employé, tape sur le moulin pour ne pas perdre le moindre grain. Au fond de la boutique se cache un trésor, des éventails peints à la main, là encore un art en voie de disparition. Guida, la patronne, elle aussi s'inquiète pour l'avenir de tous ses commerces, en premier lieu le sien. Un hôtel devrait être construit au-dessus de sa boutique, dont elle n'est que locataire. Voir disparaître les boutiques anciennes de Lisbonne, c'est voir menacer l'identité de la ville. Jean-François David est éditeur de cartes postales. Il a décidé d'en créer une consacrée aux vieilles boutiques, un acte plus militant que commercial.
Lisbonne, c'est pas une ville comme Venise qui est extrêmement différente de toutes les autres. C'est pas une ville comme Paris avec de grands monuments ou de grands musées comme Londres. C'est une ville qu'on aime parce qu'elle a un charme spécifique et ses boutiques anciennes font vraiment partie du charme de Lisbonne. Et leur disparition, remplacée par des boutiques de hamburgers ou des boutiques de fringues qu'on trouve partout, ferait perdre une grande partie de ce charme de Lisbonne.
L'éditeur pense que Lisbonne a plus à gagner qu'à perdre en préservant son identité.
Qu'elle se modernise, c'est évident. Elle a tout à gagner à être plus propre, avoir plus de jardins. Il y a du progrès sur de nombreux domaines. Voir une boutique où on vend des boutons qui est un peu la même depuis 40 ans, c'est quelque chose que les gens d'ici aiment bien, en général, que les gens qui habitent depuis 20 ans ou 30 ans seulement aiment bien aussi, et que les touristes trouvent un peu amusant. Et donc, c'est bien de ne pas perdre ces choses-là.
Le mouvement civique Citoyens pour Lisbonne a décidé de prendre fait et cause pour ces boutiques parfois vieilles d'un siècle ou deux et propose un circuit pour les découvrir. La mercerie Bijoux, le marchand de journaux Monaco, la maison de café Perle du Rossio, la bijouterie Barreto et des dizaines d'autres sont à l'honneur. Paolo Ferrero, l'un des responsables des Citoyens pour Lisbonne, soutient l'action de la mairie.
C'est la première fois que l'on a affaire à une démarche structurée et c'est ce que veut faire la mairie. Il faut d'abord modifier la loi sur la location immobilière qui a récemment accéléré le processus de disparition des commerces. Même si ça reste symbolique, il faut aussi soutenir les commerçants. Mais s'ils croient qu'ils vont gagner de l'argent avec la classification en boutique historique, c'est une erreur. Enfin, il faut assurer la promotion non seulement auprès des touristes, mais aussi auprès des habitants.
La loi qui permettrait de résister à la pression immobilière est toujours à l'étude à l'Assemblée nationale et les commerçants qui vivotent sont tentés de céder leur pas de porte. Le charme désuet de Lisbonne s'éteint un peu à peu.
Just try it. Play the record over again right now.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Catherine.
Alors, votre choix se porte ce vendredi sur un duo allemand qui avait fait un carton il y a 4 ans. Il revient avec un deuxième album plutôt efficace.
La belle histoire de Milky Chance débute en 2012 à Kassel, en Allemagne, quand les tout jeunes Philippe Dausch et Clémence Rebein ébauchent dans leur chambre de lycéens des petits tubes en devenir. Les chansons de Milky Chance tracent d'abord leur chemin sur les blogs en Allemagne, s'échangent comme des secrets avant d'être sur toutes les lèvres en 2013, quand sort leur premier album, Triomphe colossal à domicile, bientôt amplifié en 2014 par une sortie internationale et un succès en proportion. C'est fort de cette expérience que le duo revient aujourd'hui avec un deuxième album qui perd en charme ce qu'il gagne en efficacité, soit une mécanique pop bien huilée dans laquelle la voix rocailleuse de Clémence semble jeter une poignée de gros sable.
Extrait du duo allemand Milky Chance. À la réalisation, il y avait toute cette semaine Françoise Grelot. Ne zappez pas dans quelques instants de journal.